Vous êtes sur RTL.
Le professeur Pialoux est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Gilles Pialoux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est en train de faire son point hebdomadaire sur l'épidémie. Il appelle chacun à la responsabilité. Il redit que la situation est grave, que la deuxième vague est là et qu'elle est particulièrement violente. Mais pas d'annonce particulière. Est-ce que vous pensez que, avec le dispositif qui est déjà en place, l'ordonnance du docteur Véran est la bonne et qu'on va réussir à casser la courbe épidémique, professeur Pialoux?
Je crois qu'on est dans un moment d'attente et que cette prise de parole très sanitaire, et c'est bien qu'on ait un discours aussi sanitaire parce que c'est quand même avant tout une crise sanitaire, vient non pas meubler l'attente, mais expliquer les enjeux d'une part, et le pire aurait été d'avoir des mesures prises alors que tout le monde a dit que c'était un minimum de 15 jours, voire 3 semaines pour voir les effets sur les marqueurs qu'on nous a égrenés ce soir. Là, on n'est même pas une semaine. Encore plus si on compte que les gens sont rentrés de vacances, donc de Toussaint. Donc je pense qu'effectivement, là, c'est un appel à la responsabilité, à la cohésion sociale et au fait que chacun se saisisse. Et je trouve que la phrase du ministre qui dit que la durée du confinement, même s'il est un peu light, dépend de chacun, est très importante. Et je crois qu'il a donné les scénarios de ce qui se passerait si chacun ne se saisit pas de cet outil de prévention collective.
Cet appel à la responsabilité, professeur Pialoux, comment faut-il l'entendre? Est-ce qu'on sort trop? Est-ce qu'il y a trop de monde dans les rues?
Clairement, oui. J'ai un peu poussé un coup de gueule cette semaine parce qu'on avait l'impression d'un semi-confinement masqué. Il y a effectivement trop de monde. Alors après, je ne sais pas si c'est par le discours et par la pédagogie. Il en faut, et c'était le cas un peu ce soir. Ou par le coercitif, hein. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que, et on le redit, hein, la grande complexité, c'est que les gens se saisissent aussi de la prévention à l'intérieur de la cellule familiale et dans le secteur fermé. Je sais que ça a un peu rué dans les brancards, mais probablement qu'il faut monter un peu les règles de prévention à l'intérieur du milieu familial, parce qu'on sait maintenant que c'est là où se joue la plus grande des contaminations et des clusters.
En clair, vous dites qu'il faut porter le masque à la maison, hein, mais ça changerait quoi vraiment?
Non, je pense qu'il faut. Il n'y a pas que le masque, hein. Il y a l'aération, il y a le fait de diminuer le nombre de personnes qui se voient, et puis il y a le problème aussi de la circulation effectivement des jeunes qui n'est pas remis en cause, mais je pense qu'il le sera dans quelques semaines si les marqueurs ne sont pas au rendez-vous. Hein.
Vous avez des enfants, je crois, hein, professeur Pialoux. Est-ce que ça vous paraît vraiment possible et tenable de leur demander de mettre des masques chez eux?
On est en train d'essayer de changer de culture parce qu'on ne sait pas le devenir de cette pandémie. On sait que les pays asiatiques ont intégré, alors je ne dis pas que tous les Asiatiques vivent avec un masque chez eux, mais ils ont intégré la distanciation sociale, le lavage de mains, l'aération des lieux et effectivement le masque ou la solution hydroalcoolique en plus. Et je pense que nous, c'est à chacun de se saisir de ça. Évidemment, si vous êtes en couple tout seul et que vous ne voyez personne, il n'y a pas de sens de mettre un masque avec votre conjoint. Mais si vous êtes certains membres de la famille, et notamment ceux qui prennent le transport en commun, ceux qui sont dans le milieu du travail parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler ou parce qu'on leur refuse, parce qu'il y a encore des employeurs qui refusent le télétravail, et si vous avez évidemment des lycéens, donc c'est très compliqué de protéger, et je pense qu'effectivement il faut protéger aussi les plus fragiles. Alors c'est une solution, c'est un aménagement si vous voulez. Et puis il faut aussi que les gens se saisissent, il y a trop de monde dans la rue, il y a trop de monde dans les transports en commun, et je pense que toutes ces personnes ne correspondent pas aux règles qui ont été définies pour ce confinement deuxième version.
Vous disiez tout à l'heure, il y a le choix entre la responsabilité de chacun et le coercitif. Est-ce que vous dites ce soir, il faut plus de coercitif? Est-ce que vous dites, par exemple, il faut un couvre-feu en plus du confinement?
Là, excusez-moi de revenir sur ça. Franchement, je pense qu'on est dans une attente. Et effectivement, compte tenu de ce qui se profile et compte tenu du plan sanitaire, je le répète, ça a été dit très clairement par Olivier Véran, c'est un plan sanitaire pour sauver les gens qui ont le Covid, mais c'est aussi un plan sanitaire pour sauver tous ceux qui ont besoin du système de soins et qui sont comprimés par la montée en puissance de cette deuxième vague de Covid. C'est très important que les Français comprennent ça. Et que si on n'y arrive pas, on va pas mettre à plat le système sanitaire, plus tous les effets collatéraux sur le cancer, sur le cardiovasculaire, sur le diabète, etc. Donc je pense qu'effectivement, il faudra augmenter la puissance de feu coercitive si les Français ne se saisissent pas de cette occasion qu'on leur est donnée d'avoir un confinement plus adapté, et plus, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent.
Mais on a encore le temps d'attendre pour prendre ces mesures-là, professeur. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, bah, vu à quelle la façon dont les contaminations galopent, vu comme les lits de réanimation sont occupés, vu le nombre de décès qui augmente, est-ce qu'il ne faudrait pas dire aujourd'hui, allons-y dans le coercitif, resserrons, reconfinons peut-être plus difficilement, plutôt que d'attendre dans 15 jours les résultats hypothétiques du confinement light qu'on connaît tous?
Mais non, parce que c'est ça. Alors là, pour le coup, le message va être encore totalement incompréhensible. C'est-à-dire que si on prend des mesures et qu'on n'attend même pas le résultat de ces mesures, comment vous voulez que les mesures d'après soient entendues par les Français? C'est un aveu d'échec total. Il y a des mesures qui ont été prises, on les soutient, elles auraient pu être plus coercitives, elles le sont pas. Et puis on va voir l'effet sur les différents marqueurs qu'on a, et on aura ça effectivement dans 2 semaines peut-être. Mais la pression est très forte. Hein. En Ile-de-France, on est à 92% d'occupation de la réanimation, donc on est au-dessus de la moyenne nationale qui est de 85%. Donc et il faut s'occuper des autres malades. C'est ça que les Français n'ont pas intégré. C'est une contrainte nationale. C'est une contrainte nationale cette pandémie. Et franchement, je pensais pas en tant qu'infectiologue vivre ça.
Professeur Pialou, on a quand même l'impression d'avoir le doigt dans un engrenage infernal. On reconfine, le virus ralentit, voire fait semblant de disparaître. On déconfine et ça repart comme en 14. C'est un tunnel qui n'en finit pas. Quand est-ce qu'on pourra sortir de ce cycle? Est-ce qu'on sait si on pourra sortir de ce cycle?
Je ne sais pas. Il faut accepter que les scientifiques puissent dire je ne sais pas. Thomas Soto, je pense qu'on est dans une découverte de quelque chose qui nous surprend. Ça a été dit par Jean-François Delfrécy, pardon. La soudaineté de cette deuxième vague, le fait qu'elle soit plus précoce. Et donc, effectivement, on va peut-être dans un système de stop and go, c'est-à-dire qu'on aura des périodes des périodes de contraintes sociales et de gestion de crise à l'hôpital. On a 3 cellules de crise, nous, par semaine à l'hôpital, plus celles qu'on rajoute parce que la pression monte. Et puis, après, il y aura un relâchement. Et puis personne ne peut savoir comment on va réguler ça. Tous ceux qui ont fait des prédictions, vous l'avez souligné en me présentant, vous êtes très gentil, mais tous ceux qui ont fait des prédictions se sont souvent trompés sur l'aspect saisonnier. Sur le fait. Alors évidemment, il y a aussi ce qu'a dit le président de la République, c'est que peut-être qu'on va vivre avec ce stop and go jusqu'à l'avènement d'un vaccin, voire d'un vaccin et d'un traitement.
Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a dit en début de semaine qu'il n'y aurait peut-être jamais de vaccin et que le Covid-19 ne disparaîtrait peut-être jamais. Ce pessimisme-là, c'est une hypothèse sérieuse aujourd'hui encore ?
Ouais, je suis un peu surpris parce que moi je suis plutôt, alors autant sur ça, je suis plutôt dans le camp des optimistes par rapport à la construction vaccinale pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a un engouement international qu'on a rarement vu. Hein. C'est un virus qui est assez peu variant, hein, malgré ce qui a été dit dans le sud de la France. Un virus assez stable. Il y a vraiment beaucoup d'essais qui sont en phase 3. Il y en a à peu près 11. C'est en phase d'efficacité. Je pense qu'on en sortira quelque chose. Le problème, c'est de savoir quand, dans 2021 peut-être, fin 2021, et puis surtout à quel niveau d'efficacité et d'acceptabilité pour les populations.
Qu'est-ce qu'il a de différent des autres virus?
Je suis plutôt confiant.
Qu'est-ce qu'il a de différent des autres virus, ce Covid-19?
Mais il a la première différence qu'il a, c'est d'être nouveau, émergent. Ça, c'est sa première différence. La deuxième, c'est qu'on a vu peu de virus émergents précisément avoir une telle palette, si je puis dire, de complications et de manifestations cliniques. Donc c'est un virus qui entraîne des symptômes et des atteintes qui sont tout à fait complexes et on en découvre encore maintenant, notamment en post-Covid. L'autre particularité, c'est d'avoir, et ça sera un sujet de société pour demain, c'est comment un virus qui laisse 85% de gens plutôt en forme arrive à ce point à secouer notre système sanitaire au niveau mondial, tout pays confondu, à mettre à mal notre économie. C'est une vraie problématique de société et on n'a pas encore l'explication.
Gilles Pialou, est-ce que pour résumer votre pensée, on peut dire ce soir que votre message, c'est attendons les résultats du confinement qui est en cours, mais si ça ne suffit pas d'ici une dizaine de jours, quand on aura ces indicateurs, il faudra sévir, il faudra peut-être aller vers un confinement strict, il faudra peut-être fermer les écoles?
Oui, probablement. Oui, les lycées, les collèges, ça fait beaucoup de monde qui circule et beaucoup de virus qui circulent. Il y a une étude qui est sortie en même temps que les élections américaines le 30 octobre dans justement le bulletin américain d'épidémiologie, le MMWR, qui montre un des taux de contamination à l'intérieur de la cellule familiale au niveau de 53%. Donc on sait que c'est là que ça circule, même si on a peu d'études. Donc, non, je crois que le message, c'est celui de ce soir, hein, c'est que la durée de ce qui se passe actuellement, en tout cas en termes de restrictions des libertés et de l'économie, dépend quasi exclusivement de nous, c'est-à-dire des citoyens et des Françaises et des Français.
Merci beaucoup.
C'est un peu de ça que je puis dire en conclusion, si vous permettez.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle votre livre, Nous n'étions pas prêts, qui sortait cet été et qui nous parlait de la première vague. Gilles Pialoux, qui est donc chef du service d'infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris. Dans un instant, ce sera la culture de l'actu. Julia Molcou est comme Joe Biden, comme Donald Trump. Elle est dans l'attente ce soir.
RTL Soir.